Dans le paysage syndical, la CFE-CGC a de bons résultats. Vous êtes content? Vous avez une bonne représentativité?
Oui, tout à fait, on est très content. La CFE-CGC est quatrième organisation syndicale représentative. Nous, on est à l'organisation d'encadrement. Mais surtout, on a pu noter que notre organisation a progressé en nombre de voix sur le dernier cycle électoral de 4 ans, de 82 000 voix, ce qui fait une progression de 17%, ce qui est très remarquable. J'ai coutume de dire que c'est mieux que le CAC 40, c'est pour dire.
Alors, on a bien voté parce qu'on sait que pour l'élection des TPE, ça a été catastrophique.
Alors l'élection des TPE a été effectivement une très très grande déception, c'est un peu une catastrophe, 7% d'électeurs, il faudra vraiment se poser des questions tant sur l'organisation que les modalités générales d'élection dans les TPE. Il faut absolument que les salariés des TPE puissent participer à ce qui est la gouvernance sociale, ce qui a été construit finalement pour eux. Moi je considère qu'il faut tirer toutes les leçons de cet échec, on ne peut pas en rester là.
Alors justement, la gouvernance sociale, vous vous en occupez, vous êtes reçu par le président Macron, le Premier ministre, vous allez être reçu par la ministre du Travail. Vous avez des propositions ?
On est dans une phase finalement assez subtile, pour le coup très intéressante et très motivante, où on est sur le fond un peu étonné par la proposition qui nous est faite que pour lutter contre le chômage, il faudrait réformer le code du travail. Nous ne pensons pas du tout que ce soit le sujet. Nous avons dit d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de le dire très directement au Premier ministre, que pour nous c'était un fantasme. Certes, il y a dans le code du travail des choses à réformer, nous ne sommes pas du tout contre. Il faut que le cadre dans lequel la norme juridique évolue, il faut accepter de remettre en question ce cadre. La société elle évolue et le code du travail lui aussi doit évoluer. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est le lien entre le chômage et la prétendue complexité du code du travail. Ce qui est proposé dans le cadre des ordonnances, finalement, c'est un sujet sur la négociation dans l'entreprise, point sur lequel nous avons pas mal de points d'accord et de propositions à faire pour effectivement organiser la promotion et l'amélioration de la négociation dans l'entreprise. Et puis la question de la fusion des instances, point sur lequel nous considérons qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à le faire sous l'angle de la vision. Par contre, nous sommes tout à fait disposés à faire des propositions pour réfléchir à une forme de nouvelle instance dans laquelle on intégrerait des principes de gouvernance et de valorisation de la représentation des salariés, ce qui nous permettra d'avancer. Donc vous voyez un petit peu notre position, c'est-à-dire qu'on nous objecte un calendrier extrêmement ramassé, finalement un peu caricatural sur la réforme du Code du travail au motif de l'urgence de lutter contre le chômage. Nous répondons oui, il y a des choses à faire, mais il faut du temps pour les faire bien et en l'état, ce que vous proposez n'aura aucun impact sur le chômage.
Alors vous dites notamment que la réforme de prud'homale, c'est vraiment du pipeau.
Oui, j'ai l'occasion de dire que c'est du pipeau. Résumé comme ça, effectivement, ça peut paraître un peu court. Non, ce que nous disons, et pour le coup c'est très sérieux, c'est qu'au fond, le plafonnement des indemnités prud'homales est inacceptable pour la raison que c'est économiquement inefficace et c'est moralement inacceptable. La contrainte qui doit être faite dès l'instant qu'un licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle doit être faite sur le principe même du préjudice à indemniser et on ne peut pas accepter le principe que par définition, le préjudice serait déjà évalué indépendamment de ce qui a été concrètement réalisé en termes de préjudice.
Alors, est-ce que ça veut dire que à la rentrée, en septembre, les ordonnances sont prévues par le gouvernement pour la fin septembre, est-ce que ça veut dire que la CFE-CGC, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens, vont aller dans la rue avec la CGT ?
D'abord, on ne sait pas si la CGT ira dans la rue. Il faut, je crois, poser la question à Philippe Martinez. De notre côté, vous le savez, nous ne sommes pas une organisation qui est adepte du principe de descendre a priori dans la rue. On n'exclut jamais les manifestations. On en a fait, on sait en faire. On a les militants pour le faire. Mais la manifestation est rarement le moyen de réponse le plus efficace dès l'instant qu'on est dans une étape de concertation. Nous, on considère à la CFE-CGC que l'intelligence est toujours une option disponible.
Alors enfin, vous êtes en tournée dans les régions, vous avez pris cette orientation à votre élection depuis un an à la tête de l'organisation donc syndicale CFE-CGC. Là, vous êtes dans la région PACA. Or, vous avez été ingénieur à l'usine Alteo de Gardanne et vous avez donc une position sur cette usine qui est dans l'opinion publique liée à l'affaire des Bourouges.
Alors, les Baux Rouges, c'est plus qu'une affaire, c'est une réalité qui interroge beaucoup de choses dans notre monde aujourd'hui, notamment sur l'interface entre l'activité industrielle et la ville, celle dans laquelle la société civile vit et élabore des contraintes, et c'est tout à fait normal. Ce qu'il y a derrière le dossier, vous avez gentiment fait appel à mon parcours, c'est vrai, j'ai été ingénieur dans cette usine, ce qui me donne une vision un peu technique des procédés mis en œuvre. J'ai été aussi délégué syndical, j'ai participé à l'intersyndicale sur les résidus inertes en 1995, date à laquelle il y a eu à peu près, dans des circonstances équivalentes, le même débat entre l'administration, le pouvoir politique et l'usine sur le renouvellement d'autorisation du domaine maritime. Ce qui est grave sur la question de Gardanne, c'est l'attitude de Ségolène Royal qui, en tant que personnalité politique et pour son seul profit, a voulu à tout moment déjuger son administration. Parce que l'autorisation d'exploiter pour l'usine est quelque chose de très compliqué, de très complexe. Il y a beaucoup d'études. Moi, j'invite chacun à consulter les études, mais à les consulter au fond. Rien n'est caché. Allez voir la direction, demandez à voir les dossiers. Les études sont faites de manière indépendante. On nous dit que c'est l'usine qui les paye, mais c'est l'administration qui impose à ce que ce soit l'usine qui finance ces études. Elles sont faites par des gens indépendants, que je crois, nous ne sommes pas en France dans un pays dont l'administration est corrompue. Je ne crois pas que le chef d'entreprise d'Alteo ait fait quoi que ce soit pour influencer dans un sens plus favorable les décisions administratives et les études qui sont faites par des universitaires. Donc voilà, si un jour on dit il ne faut plus qu'il y ait d'usine en France, il n'y en aura plus. D'ailleurs, au passage, il y en a quand même beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et la bauxite vient d'Afrique, vient d'Afrique, on la traite en France. Il n'y a plus beaucoup d'usines d'alumine en Europe. C'est la seule en France. Eh bien, si on pense que cette activité industrielle a trop d'impact sur l'environnement, eh bien, un jour, cette usine n'exploitera plus. Et puis, les gens qui aujourd'hui en vivent et y travaillent, eh bien, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais on se voit, ils ne pourront plus en vivre.
Mais il y a quand même un impact sur l'environnement.
Bien sûr, il y a un impact environnemental. Comme toute activité industrielle, elle a un impact sur son environnement. Et la société progresse en déployant tous ses efforts pour que ces impacts soient diminués. Mais on exploite aujourd'hui à peu près 800 000 tonnes de bauxite dans cette usine par an. On génère, en fonction de la production, entre 200 000 et 250 000 tonnes de résidus. C'est comme ça, c'est le procédé qui veut ça. Et c'est comme ça dans toutes les usines du monde. Moi, j'avais proposé à l'époque à Ségolène Royal cette idée. Eh bien, puisque la bauxite vient d'Afrique, on n'a qu'à renvoyer les résidus inertes en Afrique. On aura pris une terre riche en aluminium, on leur renverra un résidu désormais sans valeur. Moi, je trouve que c'est une belle image du monde que Ségolène Royal pourrait défendre. Hein ? Elle-même qui prend des avions qui sont faits en aluminium.
Alors, vous avez quand même des propositions, notamment vous dites les sujets qui sont sur la table, c'est pas les bons. Nous, on a d'autres propositions pour les freins, justement, à l'embauche.
Oui, il y a des freins à l'embauche. Moi, je pense que pour le coup, c'est réel et c'est la responsabilité des organisations syndicales que de s'intéresser à regarder quels sont ces freins. Il y a des problématiques de mobilité. Nous, on considère que c'est la raison principale. Il faut réorganiser peut-être une mobilité géographique plus forte. Il y a des vrais problèmes de bassin d'emploi. Il faut travailler sur les filières d'emploi, il faut travailler sur les filières de compétences, sur la mobilité des compétences, et ça nécessite un investissement dans la formation, mais une formation de qualité et une formation adaptée aux besoins.
Alors justement, vous avez un exemple dans une vallée des Pyrénées ?
Oui, je prends cet exemple. Alors là, on est ici dans les Bouches-du-Rhône, donc j'espère que personne ne m'en voudra. Mais je prends cet exemple parce que je le connais, d'une usine de petite taille, une centaine de salariés, qui doit renouveler, pour la question de l'évolution de sa pyramide des âges, qui doit renouveler son personnel. Eh bien, c'est pas simple, parce que aujourd'hui, quand on a 20 ans, qu'on a peut-être fait ses études à Toulouse, on n'a pas forcément envie de revenir travailler dans une vallée, dans une usine. On le sait, c'est la vérité. Il y a certaines activités économiques, c'est quand dans certaines activités industrielles qui sont confrontées à des problématiques de recrutement. Eh bien, regardons ces problématiques de recrutement. Et croyez-moi, ce n'est pas le code du travail qui crée la difficulté pour recruter. C'est la question de l'attractivité du secteur. C'est parfois la question du salaire. C'est parfois la question de la pénibilité, des conditions de travail. Ça, c'est un vrai problème au recrutement. C'est parfois la problématique de la compétence, de la vision, la question des classifications. Ça, ce sont des vrais problèmes. Eh bien, regardons ces problèmes et essayons ensemble de trouver des solutions.